Voilà, comme ça. Oui, ça va,
très bien.
Alors, la caméra,
pas de... What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
Che fa, aggredisci?
Che passata fa, che passa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedisci? Come fa chiedisci?
Bienvenue à Cinémascope en ce mois d'avril, avec un programme somme toute assez copieux, 6 films au programme, avec un lien fort, je trouve, autour de la difficile entreprise de vivre. Nous avons zappé provisoirement le plombier intergalactique, mais nous allons nous plonger dans un premier temps, juste un peu dans une illusion. Une illusion, c'est le dernier film de Toledano et Nakash, les célébrissimes, donc... auteur de Intouchables, bien sûr, entre autres. Mais c'est comme ça qu'il est resté un peu dans la mémoire, ils sont restés un peu dans la mémoire populaire. Juste une illusion, une chronique des années 80. Nous sommes en 1985. Vincent a 13 ans. Il entre dans la vie, bientôt la bar mitzvah. Et c'est toute l'atmosphère de cette tranche de vie politique aussi française, en gros de l'élection de François Mitterrand à la chute du mur, en passant par « Touche pas à mon pote », cette période que nous avons à peu près tous en mémoire, mais alors de manière différente en fonction de l'âge que nous avons. Que nous n'allons pas dévoiler, nous sommes 3 à l'avoir vu, je suis accompagné en effet de Julien, la maison de l'image.
Bonjour.
Bonjour, et de Christophe du Navire.
Bonjour.
Ainsi que de Sylvain naturellement qui réalise tout ça.
Salut.
Juste une illusion, Christophe, ce dernier opus de Nakash et Toledano, qu'en dire ?
Alors, c'est un film doudou, moi je trouve. Alors bon, moi je, comme tu le disais, on va pas parler âge, mais bon, moi j'ai vécu cette époque-là de l'intérieur. Hein, j'avais l'âge d'un des deux protagonistes du film.
Moi aussi.
Et Olivier Nakash et Eric Toledano sont un peu des spécialistes de ces films qui réchauffent le cœur et l'âme. Voilà, c'est une chronique, on va dire. C'est pas un film où il y a du suspense où on va savoir des choses. Voilà. C'est une chronique familiale, la vie d'un jeune garçon de 13 ans qui rencontre l'amour, de ses parents qui galèrent au boulot, voilà, de la femme qui essaye d'améliorer son quotidien, puisque en 1985, on la voit qui sert du café à ses patrons, et elle se lance sur un parcours informatique pour essayer de progresser dans la vie.
Devenir cadre,
oui, qui est le leitmotiv du film qui revient très très souvent, voilà, alors que bon, c'est... Finalement, c'est une époque dont on ne parle plus. Enfin, être cadre maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose finalement par rapport à ce moment-là où c'était vraiment un ancrage fort dans la société. Voilà, c'est tout ça, ce film. Et voilà, on passe un bon moment, même si on n'a pas connu vraiment cette époque-là. Je suis allé le voir accompagné de quelqu'un qui a pas vraiment connu ces années-là. Mais la mise en forme, à la fois visuelle, que ce soit vestimentaire, des décors, des logos, tout est là.
Voiture,
tout est là, et voilà, c'est un petit film doudou. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. Ouais.
Oui, complètement. C'est un rappel des années 80 qui ont leur beauté, leur naïveté presque, je dirais, mais aussi leurs aspects difficiles. Hein, beaucoup de chômage, beaucoup d'inflation, et effectivement, c'est un peu rappelé quand même dans ce film. Julien ?
Oui, je rejoins complètement ce que dit Christophe. Les gens qui avaient l'âge des protagonistes, voilà, moi aussi j'étais de cette génération-là, donc du coup, effectivement, j'ai bien connu ces moments-là. Mais ce qui est agréable en fait avec Nakash et Toledano, c'est évidemment le souci en fait du détail, et effectivement, de, comme tu l'as souligné, des décors, des petits objets, de l'ambiance, hein, et là la musique y est pour beaucoup, parce que vous allez retrouver plein de tubes de cette époque-là qui sont vraiment plaisants à entendre et à réécouter. Et également, il y a quand même aussi un discours en fait sous-jacent et assez intéressant et d'actualité d'actualité parce que voilà, pour prolonger, parce que effectivement c'est un film revival de ces années-là où on se fait plaisir, mais ça dit aussi des choses d'aujourd'hui et de l'évolution de la société qui sont quand même assez intéressantes, hein. Moi je pense à la marche des beurs, là, touche pas à mon pote, la petite main jaune, hein, que tout le monde a eu à cette époque, hein. Voilà, avec et du coup voilà, au jour d'aujourd'hui ça questionne quand même sur l'engagement politique, quoi. À l'époque, effectivement, la jeunesse allait dans la rue pour lutter contre le racisme. Quand on voit les perspectives politiques actuelles, c'est quand même important, je pense, de regarder ce film et se rappeler quand même, pour ceux qui votent, toute notre jeunesse. Et oui, la jeunesse collective. Et aussi, voilà, tu parlais de naïveté, mais aussi de naïveté, mais voilà, c'est juste une illusion. Je pense que du coup, le titre, voilà, c'est faisons que ça ne soit pas juste une illusion, on va dire, et que il y avait cette appétence et cette envie de vivre ensemble qui était quand même très présent chez toute une jeunesse et toute une génération, et qui, il faut se dire que, ben voilà, les gens qui étaient dans la rue à cette époque-là, il faut continuer à défendre ces idées-là, hein, du vivre ensemble.
Oui, il y a une autre dimension d'illusion, c'est que cette époque-là, c'est aussi la création des Restos du Cœur par Coluche, et on avait l'impression à l'époque que c'était une rustine, un petit moment de secours aux plus démunis, et en fait, les bénéficiaires des Restos du Cœur n'ont pas cessé de s'accroître en nombre depuis. Donc effectivement, juste une illusion, là, on peut entendre tout à fait, quand on pense par exemple, on parlait des cadres, quand on pense que les cadres qu'il s'agissait de devenir à l'époque sont en train de disparaître à cause de l'intelligence artificielle, c'est quand même un petit peu effectivement inquiétant, et si ça pouvait servir de piqûre, de rappel, ça ne serait pas inutile. Un film à voir, donc, effectivement, dont peut-être la seule limite est de ne pas comporter une vraie histoire, mais d'être effectivement une chronique de l'époque, un petit peu morcelé, mais néanmoins drôle, touchante, et je vais pas gâcher, mais à un moment très très drôle.
Oui, et puis alors c'est un peu dur de dire qu'il y a pas d'histoire, moi je trouve, parce qu'il y a c'est l'histoire de ce jeune garçon qui grandit, qui a sa première histoire d'amour, enfin voilà, et voilà,
chronique, c'est une histoire, hein.
Voilà, voilà. Mais non, mais c'est donc du coup il y a quand même une moi je trouve qui peut du coup comme tu le dis plaire à tout âge, parce qu'effectivement là je pense que les plus jeunes peuvent s'identifier. C'est Nakache et Toledano, c'est, alors on l'a pas dit, mais c'est un film sur leur jeunesse et c'est leur histoire à eux, leurs deux histoires mêlées, et il y a beaucoup d'autobiographie là-dedans, donc il y a cet aspect-là aussi qui est intéressant.
Voilà, donc nous allons passer à une autre entreprise de vivre, mais alors celle-là, exceptionnelle, tout pour le meilleur.
Alors, Philippe Croizon, quel sera votre prochain exploit ?
La traversée de la Manche.
Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer ?
J'ai un objectif à atteindre.
Distance, 34 km.
Peut-être un peu fou.
Philippe !
Mais moi, j'y crois.
Et si tu commençais déjà par faire une longueur ?
Bah déjà ici, une largeur.
Même si s'entraîner pendant des jours, il faudrait 4 ans.
2 ans. On vous en donne 2.
Il faut l'arrêter là. Son métabolisme a atteint ses limites.
Non, moi, je sais qu'il peut encore y arriver.
Pour le meilleur, réalisation de MC Mention Char, c'est comme ça qu'on dit ? Que tu as vu, Julien ?
Alors, je l'ai vu, effectivement. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie.
Celle de Philippe Croizon, qui a eu un grave accident d'électrocution. Une décharge de 20 000 volts arrête son cœur. Une deuxième décharge de 20 000 volts refait démarrer son cœur, mais on est obligé de l'amputer de ses 4 membres.
Voilà. Donc du coup, voilà, c'est son histoire personnelle, donc c'est l'adaptation du livre qu'il a fait. Voilà, là on est plus, on va dire, sur, voilà, c'est quasiment documentaire, donc effectivement, pour tout dire, c'est pas un grand film de cinéma, mais je pense que c'est un témoignage qui peut être intéressant. Évidemment, ça parle de rédemption, voilà, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de son handicap et pour vivre aussi se proposer, on va dire, un challenge qui apparaît impossible. mais je ne raconte pas la fin.
L'exploit est connu. L'exploit est connu.
Non, mais il va y arriver. Il va y arriver.
Il va même rejoindre les 5 continents par la suite.
Voilà.
Et on va rendre compte de ça dans un documentaire qui s'appelle Nager sans frontières.
Voilà. Donc du coup, moi je pense que ça fait partie des films qui sont quand même importants. Je pense pour les gens qui ont un handicap, ça, il y a un message qui est quand même assez fort pour leur dire, il y a des choses qu'on peut faire. Voilà, on peut quand même vivre avec cet handicap, donc il donne un peu il donne de l'espoir pour certains. En termes de cinéma, ça reste quand même du très très classique, et voilà. Mais je pense que les gens qui ont été fascinés et qui ont suivi les exploits du personnage principal iront voir avec plaisir et revoir avec plaisir sur grand écran cette aventure humaine.
Ouais. Avec une histoire d'amour à la clé également. Nous passons à une autre entreprise d'exister, une jeune fille modeste qui rencontre un homme moins modeste, c'est une fille en or.
J'ai fait un an de psycho. Après, j'ai fait 3 mois de sociaux et ça me plaisait pas trop non plus. Du coup, j'ai décidé de partir en voyage et je suis partie en Alsace.
L'estime de soi, c'est quoi au juste ?
Darius, tu m'as dit que tu restais chez moi 3 mois. Ça fait 3 ans que t'es là.
Oui ?
Non, mais je comprends pas. Tu lui as laissé ton appart, toi ?
Ouais.
Ça se précise, hein ? Une femme dans votre entreprise. Je vois une sorte de désolation permanente chez elle.
Désolée. Enfin, pas désolée.
C'est cette femme, Paul, qui vous fera oublier Virginie.
Voilà, on aura compris que la jeune fille en or dont je parlais, fort modeste, se prénomme Clémence. Elle a une vie aventureuse à couper le souffle. C'est le premier long métrage de Jean-Luc Gaget, semble-t-il.
Oui, tout à fait. Alors Jean-Luc Gaget, il est connu pour ses scénarios. Et il a travaillé avec Solveig Anspach et différents réalisateurs. Mais en tant que réalisateur, oui, c'est le premier film qu'il fait. Alors il s'est bien entouré, puisque l'actrice principale, cette jeune fille en or, c'est Pauline Clément, qu'on voit beaucoup en ce moment. C'est une sociétaire de la Comédie française et une actrice qui démarre au cinéma, en tout cas pas au théâtre où elle a déjà un sacré palmarès, mais au cinéma ça démarre. Arthur Dupont dans le rôle de son patron qui a un peu caractériel. Alors c'est un premier film, donc avec tous les écueils que ça peut vouloir dire, mais on passe un bon moment. Voilà, ce personnage de Clémence est une handicapée de la vie, on pourrait dire, qui galère vraiment pour tout, qui se fait piquer son appart par un mec qui s'est installé chez elle pendant 3 jours, on l'a entendu dans la bande-annonce. Mais malgré tout, elle garde espoir, elle reste positive, et puis ça va être un peu l'histoire d'amour avec son patron qu'elle va rencontrer, mec psychorigide qui met des post-it partout, que ce soit dans le hall de son immeuble pour dire pour donner des ordres à ses voisins. Enfin, voilà, c'est assez directif.
Un syndic à lui tout seul.
Oui, c'est ça, ouais, c'est un personnage. Et donc, c'est un peu l'eau et le feu qui vont se rencontrer, mais qui vont amener un calme aux deux. Et voilà, bon, après, comme je le dis, c'est un premier film, une petite bleuette. La prestation de Pauline Clément est assez chouette. Et on passe plutôt un bon moment. Voilà,
une romance à suivre. Donc, et une autre manière de se dépasser soi-même en direction de l'autre. Ben décidément, encore une fois, comme je le disais, plein d'entreprises à vivre ici, aujourd'hui, avec les films que nous voyons. Et alors là, une autre aventure, une autre entreprise financière, celle-ci, c'est le film de Gus Van Sant, La corde au cou. Bedtime's coming
and I reap what I done sold. Hello, Mr. Caritzis.
It's an honor, Fred.
What's on your mind, brother?
This loan company's done me wrong.
They set me up and schemed to ruin my life. Well, let me
tell you something. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me.
I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
So what's your plan, Tony, huh? What's next?
This is a dead man's wire.
If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die.
Listen, Tony, you've made your point.
I want a formal apology from Meridian Mortgage. I want financial compensation for all the money I would have had. And I want to walk out of here a free man.
You want some milk?
Sure thing, Tony.
Hey, look, ice in your milk.
No ice, Tony.
Good, because I don't remember if I filled the tray. This morning was a whirlwind.
Gus Van Sant est un homme qui a déjà une filmographie abondante.
Ah ben oui, évidemment. Donc ben, Gus Van Sant, on va pas revenir sur sa filmographie. C'est un des grands, très grands réalisateurs du cinéma mondial, hein, on peut le dire. Hein. Donc là, on est dans un film, on est assez loin de Jerry, par exemple. Je sais pas si vous vous rappelez ce randonneur qui était perdu. Donc ça rejoint un peu Compostelle qui est sorti, mais avec une réalisation quelque peu différente. Voilà. Mais
on n'est pas tout à fait dans le même genre d'ambition artistique.
Oui. Voilà, donc Gus Van Sant, là on va le retrouver sur un film noir, un polar tiré d'une histoire vraie. Voilà, il y a beaucoup d'histoires vraies hein, en ce moment, mais du coup celui-là est accompagné, on va dire, par un réalisateur assez fabuleux. C'est-à-dire que c'est un film qui est au cordeau. Il y a pas vraiment de défaut.
Pour résumer, c'est un homme qui s'est endetté beaucoup pour monter son entreprise et qui est incapable de rembourser et qui par conséquent.
Oui, c'est un peu plus. Alors, disons, il s'est endetté auprès d'un groupe d'assurance en fait par rapport à son pour acheter un terrain, pour y investir dedans, y mettre des magasins, etc. Enfin voilà. Donc du coup, sauf que la banque derrière qui lui a prêté l'argent a dissuadé les magasins de s'installer pour récupérer le terrain. Puisqu'il n'a pas pu le payer derrière. Donc le monsieur est assez énervé.
Capitalisme américain.
Capitalisme à l'américain. Donc tout est légal, on va dire, entre guillemets, mais rien de. Donc il se retrouve, et du coup, il prend en otage, ça on le sait dès le départ, donc il n'y a pas de secret, il prend en otage le fils du banquier, en fait, qui est son adjoint aussi, le banquier qui lui a prêté l'argent, pour résumer. Et évidemment, ça va créer. On va suivre cette prise d'otage quasiment en temps réel.
On est un petit peu sur le même thème politique que le type Marco là qui a descendu le patron de l'assurance maladie United Hills aux États-Unis.
Oui, alors il y a des airs de famille comme ça parce qu'effectivement il y a certaines personnes qui vont prendre parti pour lui. Pourquoi aussi? Et parce que c'est filmé en direct. Et lui, le preneur d'otage, en fait, est un fan absolu de la radio locale, qui est une radio qui est animée par un noir américain avec de la musique soul qu'on entend tout le temps. Donc déjà, une bande-annonce assez géniale. Et qui va être son interlocuteur. Ça nous paraît complètement surréaliste, mais c'est vrai. C'est du coup qui va être...
Il négocie en radio.
Pas en radio, mais il va négocier avec lui sur des coups de fil. Donc ça va pas forcément en direct, mais ça va être enregistré. Donc du coup, il va y avoir quand même des
choses. Hein.
Voilà. Et donc du coup, c'est... C'est un thriller, un des plus... Enfin voilà, ici, on attend la suite avec impatience quand on est assis dans son siège parce qu'il se passe plein de trucs tout le temps. Les acteurs sont incroyables. Tous les seconds rôles, tout le monde est au diapason, tout le monde est... Voilà, il y a un rythme de fou, de la musique américaine. Et puis c'est l'époque aussi des années 80. Enfin, il me semble, je ne sais plus exactement quand c'est fait.
Des années 70.
Années 70, ouais. Voilà. Et donc, du coup, je raconte pas la fin parce que si vous avez pas aucun souvenir de ça, c'est un peu dommage. Mais c'est assez intéressant aussi comment se termine cette histoire. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film-là. Je pense que c'est une
Mais là, il est visible à Privas en ce moment, c'est ça?
Il est visible à Privas. Nous, on va le programmer, mais j'imagine que peut-être.
Oui, je vais essayer de lui trouver une place à Open aussi.
Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est. Moi, je trouve que c'est un grand film, un grand film réussi. Gus Van Sant, il ne nous déçoit pas sur ce film-là, ça c'est sûr.
On peut dire que ça, en plus, ça faisait presque 10 ans qu'il n'avait pas fait de film.
Ça faisait un moment
qu'il n'avait rien fait, donc c'est un retour chouette.
Je me rappelle plus son dernier film,
il joue un petit peu sur les deux tableaux du cinéma indépendant et des studios, non?
Les studios moyens quand même, il est vraiment, c'est vraiment plutôt
plus
le cinéma indépendant.
On continue dans notre investigation des entreprises de vie. Alors là, une vraiment plus forte que moi, c'est plus fort que moi. On écoute la bande-annonce.
They're taking it to court.
Problem is, we don't know enough about Tourette's. Educate them.
Tourette's syndrome is not a recognized condition.
Who would pretend to have such a condition?
Hey, me!
Plus fort que moi.
Plus fort que moi, donc un film de Kirk Jones avec Robert Amariago et Shirley Anderson. Alors c'est l'histoire de John Davidson. Donc encore histoire une fois, vraie. C'est une histoire vraie. Oui, ça fait le troisième film dont on parle qui est une histoire vraie. Et c'est on commence sa vie avec lui, où c'est un jeune adolescent qui joue au foot quand il a 13-14 ans. Et subitement, il est touché par ce qu'on appelle le syndrome de la Tourette. Alors le syndrome de la Tourette, on en connaît des effets dont on peut rire, parce que voilà, on voit des gens qui d'un coup se mettent à dire des insanités. Voilà, c'est le symptôme le plus commun et celui qui est le plus représenté, on va dire, dans l'imaginaire, ouais. Ou même dans les films, ça peut arriver. Quelqu'un qui dit des gros mots comme ça quand c'est pas le moment, ou comme on vient d'entendre dans la bande-annonce, fuck the queen, alors que la queen est là pour lui remettre une médaille. Enfin bon, voilà, c'est plus fort que lui, il y a des choses qu'il contrôle pas, donc c'est des tics, mais c'est pas que des tics verbaux aussi, il y a des tics physiques qui soient visuels au niveau du visage. Voilà, c'est hyper handicapant. Et quand ça commence à le toucher, quand il a 14 ans, les gens ne connaissent peu syndrome, même, voire pas du tout, puisque même encore maintenant, c'est pas un syndrome qui est très détaillé. Et donc, du coup, que ce soit à l'école ou dans sa famille, les gens pensent qu'il simule, en fait. Ouais. Et donc, il est mis un peu au banc de sa famille. Enfin, voilà, il va manger
c'est
devant une cheminée.
Cinématographiquement, ouais. C'est intéressant, cette idée qu'on pense qu'il simule alors que. Ouais. Justement, c'est un acteur, ouais. Qui... Bon, voilà.
Et c'est un handicap énorme. On ne se rend pas compte à quel point. Moi, je n'imaginais pas ça du tout avant de voir le film. Comment ça peut pourrir la vie des gens qui sont atteints par ce syndrome. Et donc, voilà. Donc, on va le suivre au long cours. Hein, quand il a 14 ans, jusqu'à sa remise de décoration par la reine, puisqu'il a fait en sorte de rendre la maladie visible et connue du grand public. C'est pour ça qu'il est décoré, pour le travail qu'il a fait pour la connaissance de cette maladie, qui se... un travail qui a amené des pistes, à des solutions de traitement, ouais, thérapeutique, on le voit aussi dans le film, voilà. Donc on suit au long cours l'histoire de ce garçon. C'est vraiment un très très beau film et je vous encourage à venir le découvrir. C'est vraiment très bien. Voilà.
Oui, c'est un film, moi, je n'ai vu que la bande-annonce, mais qui effectivement, la bande-annonce interpelle, hein, comme on dit. Elle éveille la curiosité, on a envie de savoir si oui ou non on dépasse l'effet cirque, l'effet aller vers ce que tu as expliqué, hein, effectivement, les perspectives thérapeutiques, les perspectives sociales.
La complexité de l'intégration, parce que trouver un travail dans ces conditions-là, ou trouver un appartement, ou, voilà, on le suit dans toutes ces pérégrinations. Voilà, pour le boulot, c'est hyper compliqué de trouver des gens qui lui fassent confiance. Enfin bon, je ne vais pas donner de spoiler, parce que ça serait trop en dire sur le film, mais on voit vraiment la difficulté qu'il a à s'intégrer dans la société, tout simplement.
Oui, d'accord. Et donc alors un dernier film du programme de Cinémascope aujourd'hui, il s'agit d'un documentaire qui va encore passer trois fois au navire. Il s'agit des Chaillés de l'Enfer. On suit deux vigneronnes, c'est ça, dans les Côtes du Rhône.
Oui, alors on suit une vigneronne hyper célèbre qui s'appelle Christine Vernet, qui a repris le domaine de son père et qui est en train de former sa fille pour la continuité. Alors là, on est dans les grands crus, hein. On est dans les côtes rôties.
Côtes rôties, Combrieux. Ouais.
Voilà, c'est pas des vins de table, hein.
C'est des
vins à 200€ la bouteille. Hein. Mais bon, voilà, on suit le travail de toute son équipe. C'est une équipe de passionnés, des gens avec qui elle travaille depuis des années sur une viticulture bio, hein, en fait. Ils arrachent tout à la main, enfin, on voit la galère que c'est. Et le réalisateur Léo Boudet, qu'on a reçu donc au navire, est venu parler de son film. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il évite un peu les écueils. C'est pas un film à thème, voilà. On pourrait dire que c'est l'histoire d'une viticultrice dans un monde, dans un milieu d'hommes. Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect écologique aussi, on pourrait dire. C'est des gens qui cultivent un bio dans un milieu où on est plutôt sur le rendement. Voilà,
La problématique réchauffement climatique.
Voilà, il y a ça aussi qui revient. Il y a tout un tas de thématiques et il évite un peu tout ça en parlant à la fois de tout, mais avec un esthétisme et un parti pris visuel très très fort qui fait que, en fait, c'est ça qu'on voit en premier, en fait. C'est la beauté de ces images. Et le reste, ça vient se broder autour. Et finalement, ça fait un super film, même si on n'est pas un grand amateur de vin et que des films sur la viticulture et les vignerons. Il y en a un paquet qui sont sortis ces dernières années, hein, soit Vigneronne ou.
Je pense au film de Clapiche, à Ceux qui nous lient.
Mais là, c'était une fiction.
Une fiction, mais qui avait été filmé sur un an.
Sur un an,
et on avait eu donc c'est ce que tu dis qui m'y fait penser, où on voyait effectivement les paysages changer en fonction des saisons.
Voilà, et c'est exactement ça. Là, il les suit pendant une année entière. Alors, petite explication, les Chaillets de l'Enfer. Alors, une Chaillée, c'est une allée de vignes. Voilà, je l'ai appris en regardant le film. Mais c'est aussi les Chaillets de l'Enfer, c'est une cuvée spéciale de Condrieux qui font là-bas. Mais alors, le film, ça raconte une année d'enfer. C'est une année où rien va se passer comme il faut. C'est l'année de son tournage. Voilà, il y a eu des problèmes de pluie qui n'est pas arrivé au bon moment. Après, il y a eu des problèmes d'inondation. Après, il y a eu les bestioles. Enfin, c'est vraiment l'année de merde. Et donc, du coup, moi, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, mais c'est ça, en fait.
C'est ça
l'enfer. Et en fait, ça colle assez bien, en fait, à la cuvée. Enfin, voilà, c'est un ensemble. C'est vraiment un film très agréable à regarder. Et on passe un très bon moment, même si on n'est pas amateur de vin, je vous l'ai déjà dit. Mais ça vaut le coup de venir découvrir ce travail de Léo Boudet.
Eh ben, je suis content qu'on ait eu l'occasion d'en parler, puisqu'il reste donc 3 séances, samedi demain à 18h30, lundi 27 à 18h, et enfin mardi 28 à 20h45, tout cela au Navire, bien entendu. Un petit mot sur la tournée de la Maison de l'Image. Je m'aperçois que mardi 28, donc le même jour que les Chaillets de l'Enfer il va falloir choisir. Hein. Il y a Victor comme tout le monde qui passe à Thuyet. Alors, Victor comme tout le monde, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien.
Alors, moi, pour le coup, je n'ai pas vu Victor comme tout le monde.
Je peux en parler alors, justement.
Mais tu peux en parler, oui. C'est un portrait. On va retrouver. C'est un film pour les fans de Fabrice Lucchini. Voilà,
c'est presque la vie de Fabrice Lucchini, il l'appelle Zucchini dans le titre.
Voilà, c'est une histoire vraie.
Mais alors, je voulais, moi, insister sur le fait, parce qu'effectivement, je sais que beaucoup de spectateurs peuvent craindre que, comme il s'agit effectivement de la vie de Lucchini, ce soit un film uniquement pour Lucchini, avec Lucchini qui fait du Zucchini ou Zucchini qui fait du Lucchini. Je tenais à dire que ce film, c'est quand même aussi autre chose. Il y a deux aspects qui ont particulièrement retenu mon attention avec Victor comme tout le monde. C'est d'une part un petit coup d'œil jeté sur le monde du théâtre. Donc d'une part le one-man show de Zucchini qui lit du Victor Hugo, et puis d'autre part un intéressant projet théâtral qui est présenté dans le film. Ce sont trois jeunes femmes qui jouent l'épouse et deux amantes de Victor Hugo, et c'est une sorte de point de vue théâtral sur le Victor Hugo amant et peut-être un petit peu machiste, et c'est un éclairage original qui est soumis au regard de Zucchini, qui est lui un fan de Victor Hugo. Donc, et alors, on y vient, un autre aspect qui m'a vraiment, vraiment intéressé avec ce film, c'est que ça permet une rencontre ou des retrouvailles avec l'œuvre de Victor Hugo et sa vie. C'est quand même Victor Hugo un grand, grand bonhomme, pas seulement un grand écrivain, c'est aussi un homme politique de première grandeur, exilé évidemment pendant le règne de Napoléon III. Et j'ai trouvé vraiment très salutaire le fait d'être amené à Victor Hugo de manière aussi humaine et simple qu'avec ce film. Voilà. Moi, ça m'a donné l'occasion de relire le journal de Victor Hugo, Chose vue, et c'est un pur bonheur.
Voilà, je crois qu'il y a encore le crime du troisième étage à tuer ce vendredi 24.
Mais je ne sais... mais, oui, il y a aussi le gâteau du président, tu sais, à Lussas.
Ah, oui.
Mardi aussi également, mais du coup, ce n'est pas le même lieu.
Très beau film.
C'est vraiment une pépite, si vous n'avez pas eu le temps de le voir.
Un film irakien, voilà, c'est pas si souvent qu'on en voit. Ouais. Voilà.
Et c'est une vraie réussite, hein. Franchement, vrai plaisir. Il est en version originale sous-titrée, du coup, ça peut... N'hésitez pas si vous l'avez loupé, parce que c'est moi je trouve un des films de l'année
c'est vraiment un très très bon film. Je vous conseille aussi d'y aller si vous pouvez,
avec un personnage particulier dans ce film qui est le coq. Donc oui, un film à voir également naturellement. Je crois que nous avons fait le tour du problème et que nous allons donc nous abandonner les uns les autres pendant un petit moment, en raison en particulier des week-ends à rallonge qui s'annonce au courant du mois de mai, où l'on fait ce qui nous plaît, c'est bien connu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir supportés le long de ces diverses chroniques qui, je l'espère, vous auront donné envie d'aller devant les grands écrans. Ciao, ciao.